Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez Martino, Cube Radio.
Alors, on a appris cette semaine que Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption à 3 ans de prison, dont 1 an de prison ferme, qu'il fera pas en prison, là, dans un pénitencier, mais je pense qu'il va faire chez lui. Il y a des gens qui disent, ben, c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que même si t'es un ancien président de la République, tu as quand même des comptes à rendre et tu dois respecter les lois. Mais Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, est un peu plus sceptique. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Alors, vous écrivez un texte intitulé « La toute-puissance des juges ». Et pour vous, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, la condamnation de M. Sarkozy?
Écoutez, c'est un jugement qu'on a trouvé généralement ici en France très très sévère. Je pense qu'on peut je pense que c'est normal que la population se réjouisse que les élus ne soient pas à l'abri des condamnations de la justice, hein, peut-être à d'autres époques ils l'ont été, mais c'est des époques qui sont depuis longtemps passées en France. En tout cas, la France est probablement un des pays au monde, je pense, où les élus sont le plus dans la mire des juges et sont très souvent condamnés. Un ancien président comme Jacques Chirac a été condamné, bon, avec sursis, mais il a quand même été condamné pour des emplois fictifs il y a quelques années. Il y a des ministres qui ont été condamnés. Vous savez que même maintenant, aujourd'hui, le ministre de la Santé, hein, Olivier Véran, il y a des plaintes déposées en cour contre lui. Il y aura probablement des procès pour les décisions qu'il a prises dans la gestion de l'épidémie. Donc, on rigole pas, là.
Il y a aussi François Fillon, là, qu'on voyait presque comme président de la République, là, qui représentait la droite et qui a dû finalement jeter la serviette, là.
Absolument. Et je vous dirais que dans le cas du procès Sarkozy, il y a des choses qui accrochent et qui irritent beaucoup de monde. Tout le milieu judiciaire en France a répondu là-dessus. Notamment, Nicolas Sarkozy, vous savez, tout ce procès a été fait sur la base d'écoutes qui ont été réalisées il y a 7 ans, qui ont commencé en 2013. Alors que Nicolas Sarkozy venait de perdre l'élection de 2012, mais était considéré en France comme le chef de l'opposition. Donc, on a mis en France, parce qu'il y avait une enquête sur le financement d'une campagne présidentielle, on a mis le chef de l'opposition sur écoute.
Alors, on soupçonnait que sa campagne, il y avait des liens avec Kadhafi, voilà. C'est ça, là. Donc,
Kadhafi. Il y avait eu un financement libyen de sa campagne. Et pendant 8 mois de temps, on a écouté Nicolas Sarkozy et on a écouté notamment ses conversations avec son avocat, Thierry Herzog. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est-à-dire qu'on, non seulement on écoute le chef de l'opposition officielle, hein, on écoute Mme Anglade, là, ou M. O'Toole, voilà, mais en plus, on les écoute pendant qu'ils discutent avec leur avocat.
Christian, je fais une parenthèse. Je fais une
parenthèse. Tout à coup, on se dit, ah, tiens, on vient de trouver quelque chose.
Ben, je fais une parenthèse, Christian. Il y a un gros procès ici concernant la corruption, la fraude, qui est tombé justement parce qu'une des preuves présentées avait été obtenue lors d'une écoute. On avait écouté le prévenu qui parlait à son avocat et on a dit, écoutez, ces conversations-là ne peuvent pas être déposées en preuve parce que ce sont des conversations, comme on le sait, confidentielles.
Mais c'est tout à fait compréhensible et non seulement une écoute normalement doit être justifiée, elle doit être faite pour dans un certain objectif. On va pas écouter comme ça, comme on va à la pêche à la ligne, vous savez, on pêche, ah, ça mord. Hein? Et là, c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire que, ça a mordu. On a trouvé un truc. On aurait trouvé autre chose. On aurait poursuivi Nicolas Sarkozy pour autre chose. Je dis pas que Nicolas Sarkozy n'a pas comploté avec son avocat pour obtenir une certaine faveur en échange d'une nomination honorifique, là, pour un juge de la Cour de cassation. Visiblement, il semble l'avoir fait. Ça semble évident, même si rien de tout cela ne s'est réalisé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'a pas reçu les informations qu'il voulait avoir. n'a pas eu la faveur qu'il voulait avoir, et puis la fameuse nomination ne s'est jamais faite. L'avocat en question, le juge en question n'a même pas posé sa candidature pour l'avoir. Donc, tout ça est resté sans effet, même si, effectivement, il y a visiblement eu une sorte de complot au téléphone, comme ça, pour essayer de faire quelque chose, même si tout ça ne s'est pas réalisé. Mais, je le répète, c'était des conversations entre un avocat et son client. Et là, les formes, je pense, sont quand même relativement importantes. Je vous donne un exemple en France. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvaas, a été condamné par un tribunal pour avoir livré des informations qui étaient confidentielles et qu'il ne devait pas livrer. Là, vraiment, le méfait s'est produit. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis. C'est le ministre lui-même de la justice, ça.
Mais là, il y a comme
Et là, on est à 3 ans avec, vous voyez, 2 ans avec sursis, deux ans de sursis.
Il y a une guerre larvée, un bras de fer entre la justice et le politique.
Ça, on le sent, puis on le sent dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein, vous voyez. Mais en France, c'est très évident. Puis en France, ça prend une forme, je vous dirais, qui nous, les Québécois, les Canadiens, nous surprend, hein, parce que en France, les politiques s'expriment ouvertement sur les jugements de cour, et les juges aussi ont quand même beaucoup de liberté de parole. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé en France, ça m'a beaucoup surpris, et j'étais très étonné, parce qu'au Canada, vous savez, au Québec, on est très révérencieux. Quand il y a un jugement de cour, tout le monde se tait. C'est les juges qui l'ont dit. C'est comme si c'était le bon Dieu qui avait parlé. Mais en France, vous savez, c'est pas une monarchie. En France, c'est une république. Le pouvoir, normalement, vient du peuple. Et les élus s'expriment. Et je me souviens très bien au début, j'étais surpris. J'étais même un peu choqué de ça, parce que j'arrivais du Québec. Et un jour, c'est Nicolas Sarkozy qui, dans le fond, dans une conférence de presse, a expliqué assez bien la façon dont il raisonnait. C'est-à-dire, il expliquait, vous savez, chacun dans son rôle. La justice joue son rôle. Moi, je suis redevable à des élus, et donc je joue mon rôle. Et donc, je m'exprime à l'égard de la justice. Chacun joue son rôle. La justice joue son rôle. Moi, je joue le mien. Et je critique la justice, et c'est le résultat de tout ça qui est la démocratie, en fait. Mais personne n'est obligé de se taire à l'égard de l'autre, voyez-vous. Et c'est assez évident en France. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité depuis un certain nombre d'années entre les juges et les politiques. Et on voit bien que dans nos sociétés en général, pas seulement en France, les juges prennent énormément de place. Hein? Bon, vous avez cité le cas de l'affaire Fillon. C'est quand même une affaire qui a fait dérailler littéralement la présidentielle française d'une façon tout à fait extraordinaire. Si aujourd'hui Emmanuel Macron est président, c'est largement dû à cette affaire-là.
Mais oui, et les juges, il faut le rappeler, ils ne sont pas élus, là, en fait. Là. Et il y a comme les figures phares du système de justice en France sont de véritables vedettes. On pensait à l'avocat Vergès à l'époque, qui était une vedette. Et là, c'est Dupond-Moretti, là, qui est le ministre de la justice, très controversée.
Oui, absolument. Les juges ont une visibilité très 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 grande. Ils sont très actifs dans la vie publique. Ils se prononcent sur beaucoup de sujets, mais en retour, ils sont critiqués. Voyez-vous, et Nicolas Sarkozy était évidemment sur les plateaux de télé cette semaine pour se défendre. Et il est très bon d'ailleurs pour se défendre et pour expliquer que ce jugement-là pour lui était parfaitement injuste. Mais il est vrai que dans nos sociétés, et je pense qu'il fallait que la justice, que les élus deviennent justifiables. C'est-à-dire c'est vrai qu'on a connu des époques, pensons aux années 50, 60, où effectivement les élus étaient intouchables, la justice ne s'occupait pas du financement des partis politiques. Mais des fois, on se demande si on n'a pas traversé une frontière là aujourd'hui, où même le ministre de la Santé et risque d'être redevable devant les juges d'une décision prise sur la gestion de l'épidémie. Le cas de Laurent Fabius en France est très connu. On sait bien que si Laurent Fabius n'est jamais devenu premier ministre ni président, c'est parce qu'il y avait eu le procès du sang contaminé et que pendant des années et des années, on l'avait incriminé. Mais d'ailleurs, il n'a jamais été condamné pour rien. Mais quand même, on a eu un procès pendant des années qui ont complètement fait dérailler sa carrière politique. Donc aujourd'hui, les juges, je pense, ont tendance à prendre énormément de place. Puis c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis. Hein. Prenez le cas du grand débat sur l'avortement aux États-Unis. Hein. Toute la réglementation sur l'avortement aux États-Unis, elle n'a pas été faite par le Congrès, qui lui n'arrive pas à s'entendre là-dessus, mais par le fameux jugement Roe and Wade de 72, qui est en fait pas seulement un jugement, c'est une loi. C'est pratiquement une loi. C'est-à-dire que les juges se permettent, dans ce genre de situation-là, au lieu de dire aux politiques, ben écoutez, votez des lois, faites votre travail, et puis nous, on les appliquera. Dans ce cas-là, clairement, les juges, c'est eux qui disent quel est l'état de la loi et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Prenez le détricotage de la loi 101 au Canada, c'est ça qui s'est produit. Hein?
Ben oui, c'est la politique qui pèlte dans la cour de la justice. Et comme là, par exemple, la loi 21, c'est la justice qui va finalement dire si elle est recevable ou pas. C'est pas la politique. Là. La politique veut une loi 21. Un gouvernement qui a été démocratiquement élu dit, nous autres, on veut cette loi-là, mais là, c'est pas eux autres qui vont décider, c'est pas les politiciens, c'est pas le premier ministre, ça va être des juges qui n'ont pas été élus.
Oui, absolument. C'est de plus en plus le cas. C'est vraiment le modèle américain, hein, le modèle canadien. Et c'est pour ça que les débats en France sont peut-être un peu plus vifs, parce que les Français ont tendance à résister un peu à ce modèle-là. Ils ont tendance à concevoir une justice qui est plus dans la défense des lois, l'application, le respect des lois, mais des lois votées évidemment par les élus. Mais vous citez la loi 21. Effectivement, c'est une cour suprême non élue, nommée où les juges ont été nommés directement par le premier ministre, qui va décider effectivement de l'avenir d'une loi, loi qui avait pourtant été annoncée en campagne électorale, qui est celle d'un gouvernement bien élu, hein, qui n'est pas du tout un gouvernement minoritaire, et donc qui a agi de plein droit en fonction du mandat qu'il avait reçu de la population. Et on peut penser, on peut comprendre que tout ça crée une forme d'insatisfaction politique, hein, parce que on élit des gouvernements, ils votent les lois qu'ils nous ont proposées en campagne électorale, ils font exactement, pour une fois, ils respectent leurs promesses, hein, et respectant leurs promesses, les juges les censurent de manière systématique. Ils les censurent pas sur des détails, il s'agit pas de dire vous avez enfreint telle petite loi, non, moi j'interprète les droits humains de telle façon, et puis vous êtes soit dans les clous ou hors des clous.
En terminant, il y a quelque chose que je comprends pas trop sur l'histoire de Sarkozy. Je suis pas un expert en écoute électronique, mais j'ai été un grand fan de la série The Wire, sur écoute. Ouais. Je sais que j'ai appris en regardant ça qu'il y a des règles très, très strictes pour l'écoute électronique. On ne peut pas écouter quelqu'un pendant 8 mois, comme vous dites, aller à la pêche. Puis surtout, on l'écoute pour une enquête concernant le financement de sa campagne. Et là, on découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et là, on dit, on va porter des accusations là-dessus. Il me semble que c'est pas correct, ça.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a là une espèce de liberté là accordée à la justice et aux enquêteurs qui est très étonnante et qui à mon avis, je pense, même si on peut penser que Sarkozy a comploté, a fait des choses qui sont condamnables en soi, je pense que ces écoutes-là n'auraient jamais dû être soumises ni autorisées probablement ni soumises comme preuve. Et effectivement, je pense. Et c'est fondamental, parce qu'essayez d'imaginer, aujourd'hui, en France, les avocats le disent et le disent publiquement, il y a des avocats aujourd'hui qui disent à leurs clients de ne pas les appeler. Mais on se donne un rendez-vous à un coin de rue. C'est un peu difficile aujourd'hui parce que les cafés sont pas ouverts. Mais on se c'est donne fou. Des rendez-vous dans des endroits où on a le sentiment qu'on pourra pas écouter. C'est très grave. C'est
ben
très,
oui,
très,
mais très Christian,
de briser ce senti-
on peut mettre tous les ministres, tous les politiciens sur écoute tout le temps. Puis en disant, on va trouver quelque chose à un moment donné.
Ben écoutez, c'est sûr que quand on à force d'écouter pendant des années, on finit toujours par trouver quelque chose, mais c'est très grave. Imaginez si on avait fait ça aux journalistes, hein. Si on avait écouté les journalistes avec leurs sources, le tollé qu'on aurait eu dans les médias, hein. Mais là on le fait avec un avocat et son client, et je pense que c'est très inquiétant. Et je vous dirais que ce pouvoir ce pouvoir grandissant des juges, je ne nie pas le droit des juges d'examiner les lois, d'examiner, de s'assurer que les choses sont correctes, mais ce pouvoir général grandissant des juges qui tiennent en joue littéralement les politiques ou qui refont et qui réécrivent les lois à leur façon, c'est très inquiétant ça pour la démocratie. À un moment donné, la population, on sait déjà que le pouvoir politique est très limité par le pouvoir économique. Hein. On sait très bien que la mondialisation, etc., a enlevé tellement de prérogatives à nos élus qu'on a l'impression des fois qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et là, si les juges s'y mettent et leur enlèvent encore du pouvoir, on va se demander quel est, dans le fond, l'état de notre démocratie. Et on peut se demander si le populisme, c'est pas parfois, pas toujours, mais parfois une réaction contre ça, c'est-à-dire une réaction qui dit on voudrait que nos élus aient du pouvoir. C'est nous qui les élisons et on voudrait que le peuple, quelque part, ait du pouvoir. Si c'est ça le populisme, vive le populisme. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi, je pense.
C'est ça aussi, tout à fait. Écouter le peuple et la volonté du peuple. Donc, la toute-puissance des juges, excellent texte dans Le Devoir, ça parle d'un fait qui se déroule en France, mais ça a un impact aussi sur nous au Canada, parce que les juges emmènent aussi très large. Merci beaucoup.
Oui, mais peut-être même plus large qu'ailleurs. Surtout ce matin, mon collègue Boisvert s'étonne des réactions dans les médias français face au jugement, mais en France, on réagit face au jugement. On ne se tait pas quand il y a un jugement de cour.
Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci
beaucoup.
Christian Rioux. Du Devoir.